selon le cœur de Dieu. Et je vais vous inviter à tourner dans 1 Samuel chapitre 22. C'est là qu'on est arrivé dans la vie de David. Un petit résumé de ce qu'on a vu dans l'étude, c'est que David, bon, il est un berger, il fait un travail ingrat. Dans son travail, Dieu se révèle à lui comme un berger. Et on voit que dès son bas âge, David cherche à vivre avec Dieu. Une relation d'intimité, une relation vraiment de dépendance, d'amour. Et dès son bas âge, il écrit déjà des cantiques, des chants, comme le psaume 23. On a vu que David est appelé à devenir roi. Et en tant que jeune homme, bien, il garde la tête froide. Il vit pas en fonction de l'avenir comme on fait souvent. Il continue de servir Dieu humblement. On a vu toutes ces choses-là. On a vu que Saül, éventuellement, est pris de jalousie et essaie de le tuer à plusieurs reprises. Et la dernière fois, on a vu que David avait pris une décision un peu à la hâte, hein, sans consulter Dieu. Il a dit « La meilleure chose pour moi, c'est de me réfugier chez l'ennemi, chez le roi de Gath. » Et qui était de Gath? Goliath, qui l'avait tué. Ça a mal tourné, son affaire. Et puis, il a manqué laisser sa peau. Et puis, il a vécu quelque chose des conséquences d'une mauvaise décision, incluant la honte. On a vu ce que David a écrit par rapport à ça, qu'on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie et la honte ne couvre pas notre visage. Donc, on a vu tout ça. Puis, on arrive à 1 Samuel 22. David partit de là. C'est où là? C'est Gath. Et il se sauva dans la grotte d'Adulam. Bon, on va faire pause. On paye sur pause, là. Le film, on pose le film, là, parce que cette petite phrase-là, on la lit vite, très rapidement, comme la plupart du temps on fait. Mais il s'est passé des choses, là. Il part de Gath, il a peur pour sa vie, il se sauve de là, hein, c'est bien marqué, il se sauva. Il se sauve pour sa vie et il se cache dans la grotte d'Adulam. Et là, bien, on va voir que ses frères et toute sa famille l'apprennent et descendent vers lui. Mais là, on a posé le film, là. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de David à ce moment-là? On peut-tu le savoir? Oui, on peut le savoir, parce qu'il a écrit non pas un psaume, mais deux psaumes par rapport à ça. Donc, je vous invite à tourner dans le psaume 142. 142. Pardon? Ah, 42, oui, c'est 142. Désolé. Le psaume 142. Il a écrit aussi le psaume 57 par rapport à ce qu'il a vécu là, mais... On est vraiment privilégié, comme j'ai dit au tout début de la série, puis je continue à vous l'expliquer, qu'on est privilégié parce qu'on a une vitrine pour voir qu'est-ce qui se passe dans le cœur de David avec les psaumes. Fait qu'un homme, selon le cœur de Dieu, un cœur qui bat pour Dieu, bien, on peut voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il dit ici? Je lis dans la version Louis II, 21. Lorsqu'il se trouvait dans la grotte, prière. À pleine voix, je crie à l'Éternel. À pleine voix, j'implore l'Éternel. Je lui expose ma plainte. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu en moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, on m'a tendu un piège. Regarde à droite et constate-le. Personne ne me reconnaît. Je ne sais plus où trouver refuge. Personne ne s'inquiète pour ma vie. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon abri, ma part au pays des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien faible ou abattu. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Fais-moi sortir de ma prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Prions. Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, nous te bénissons, Seigneur, parce que nous croyons que tu es là, que tu es présent au milieu de nous. Que tu nous vois, que tu nous connais, que tu nous comprends. Comme on a lu dans le psaume 139, tu nous connais mieux qu'on se connaît nous-mêmes. Dieu de lumière, merci. Merci de nous connaître. Merci de nous aimer. Merci de t'occuper de nous, de t'intéresser à nous. Ce matin, Père, on veut entendre ta voix. On chasse toute autre voix que la tienne, Seigneur. Dieu de lumière, fais briller sur nous ta face. Accorde-nous la grâce de saisir ce que tu veux nous dire ce matin. La grâce de te connaître encore mieux. Oui, éclaire notre intelligence, illumine les yeux de notre cœur par ton esprit, ta parole. On te demande, Père, au nom de Jésus, la lumière du monde. Amen. Donc, ce matin, ce qu'on va faire, on va regarder comment un cœur qui bat pour Dieu accueille ses émotions et les vit avec son bon berger. On a vu le petit résumé. Qu'est-ce que David vit à ce moment précis de sa vie lorsqu'il s'enfuit de Gath et il se réfugie dans la caverne? Quelle émotion vit-il? Au verset 3, il dit, « Je répands ma plainte, j'expose ma plainte. » Les plaintes, lorsqu'on a une plainte, c'est qu'il y a quelque chose qu'on trouve difficile, peut-être injuste, pas vrai? Ça peut naître d'un sentiment d'injustice. Détresse, j'ai regardé la définition du mot détresse. C'est un sentiment d'abandon, de solitude, d'impuissance que l'on éprouve dans une situation difficile. David, il dit, « Je lui raconte ma détresse. » Qu'est-ce qu'il dit encore au verset 4? « Quand mon esprit est abattu en moi. » C'est quoi être abattu? C'est de se sentir découragé, triste, plus de force. T'as-tu déjà senti de même? Moi, oui. Oui, t'es comme plus de force, abattu, très fatigué, plus capable, découragé. Il dit, « Je raconte à l'Éternel ma détresse et quand je suis abattu. » Il dit aussi, « Sur la route où je marche, on m'a tendu un piège. » Il se sent piégé, rejeté, épeuré, peut-être trahi. Regardez au verset 5, qu'est-ce qu'il dit? « Regarde à droite et constate-le, personne ne me reconnaît. Je ne suis plus où trouver refuge, personne ne s'inquiète pour ma vie. » Qu'est-ce que David ressent ici? Là, je commence à vous impliquer dans le processus, là. Mettez vos chapeaux de réflexion. Abandon, solitude, c'est bon. Personne ne me reconnaît. Ignoré, pas important. Hein? Les gens, peut-être qu'ils fuyaient David parce qu'ils ne voulaient pas peut-être s'associer à ce moment-là. Pourquoi? Peut-être par peur de représailles de Saül. Là. Fait que là, personne ne veut rien savoir de moi, autrement dit. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà senti ce sentiment-là? Oui, hein? Ben, vous comprenez? Est-ce que David, oui? Un petit peu, oui. Ce que David exprime ici, qu'est-ce qu'il dit encore? Je ne sais plus où trouver refuge. Qu'est-ce que ça exprime, ça? Pardon? Oui? Il ne se sent pas en sécurité. Voilà. Il se sent plutôt exposé, en danger. Hein? C'est-tu plaisant, ça, se sentir exposé, en danger? Pas du tout, pas du tout. Personne ne s'inquiète pour moi. Qu'est-ce que ça vous communique? Vous qui prenez le cours coaching, ah ouais, là. Ah ouais, vous êtes supposé d'être bon là-dedans, là. Vous êtes supposé d'être capable d'écouter puis de dire, OK, c'est parce que tu te sens de même. Hein? OK, oui, c'est bon, ça. C'est bon, personne ne s'inquiète pour moi. Tu te sens ignoré, de laisser, abandonner, rejeter, effectivement. Délivre-moi, il dit au verset 7, de ceux qui me persécutent. Hey, un sentiment d'être persécuté, là. Ouf! D'être persécuté, d'être pris en cible. Avez-vous déjà senti ça, d'être pris en cible? Pas plaisant, hein? Puis finalement, au verset 8, il dit, « Je suis en prison. » Qu'est-ce qu'il exprime par ça? « Je suis en prison. » Comment il se sent? Il étouffe. Hey, c'est bon, ça. Hey, bravo. Te donne des points bonus, Rémi. Compressé, étouffé. Plus d'air. Et pas libre, hein? Oui, l'ancien. Hein? OK, on peut penser qu'il paranoïe peut-être, mais il exprime qu'est-ce qu'il sent dans la situation. Hein? Bon, un paquet d'émotions. Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec mes émotions? C'est ça le titre du message ce matin. Qu'est-ce que je fais de mes émotions? Comment comprendre tout ce monde-là d'émotions? OK? Parce que je vous dis, c'est un problème pour la plupart des gens et aussi pour les chrétiens. Et il y a comme trois sortes de façons d'approcher les émotions, qu'on se le dise ou non, qu'on l'exprime ou non. On a tous une façon de penser par rapport à ce monde-là des émotions. La première façon, c'est le danger. C'est dangereux, les émotions. Il faut les éviter, il faut les repousser, il faut les réprimer, parce que c'est dangereux, les émotions. OK? Peut-être que vous ne le direz pas comme ça à voix haute, mais peut-être que dans votre cœur, c'est ça. Les émotions, c'est dangereux. C'est particulièrement vrai. Si on a vécu, on a grandi dans un milieu où ce que les émotions étaient exprimées très fortement et avec beaucoup de colère. Un père alcoolique, par exemple. Une mère en dépression. On a vécu avec ça, puis dans notre petite tête, on apprend que les émotions, c'est dangereux. Faut pas pleurer, faut pas être fâché parce que papa, il va se mettre en colère. Là. Ou maman va péter une crise. Fait que les émotions, c'est dangereux. Mais quand on a cette façon-là, et puis quand on vient au Seigneur, on amène ça avec nous. Là. Le pack-sac, on l'amène avec nous. Pensez pas que vous ne l'amenez pas avec vous dans le Seigneur, dans l'Église. Là. Vous l'avez sur votre dos. Fait que là, des fois, on amène ça, puis on pense que c'est normal, puis on pense même que c'est biblique. Faut pas se laisser manipuler par les émotions. Faut pas se laisser traîner par les émotions, mener par les émotions. C'est biblique, ça. Ah oui? Hein? OK. Il y a trois problèmes quand on parle de réprimer les émotions, quand on trouve que les émotions, c'est dangereux, c'est néfaste, c'est mauvais. Il faut les tasser, ils ne méritent pas la moindre attention parce que beaucoup de gens sont piégés par leurs émotions. Le problème, premièrement, c'est que, bulletin de nouvelles, tu vas en vivre pareil. Tu vas en vivre pareil des émotions malgré toi. Et là, étant donné que tu refuses de les accueillir, ces mêmes émotions que tu tentais de contrôler vont te contrôler à ton insu. Tu vas vivre la colère malgré que tu refuses de l'admettre. Cette colère réprimée peut conduire à la dépression, par exemple. Moi, j'étais en colère, mais je ne le savais pas. Quand nous sommes allés en 2012 à la retraite avec nos amis Lorraine et Donald, cœur à cœur, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de colère en moi, réprimée, et que ça m'affectait sans que je le sache. Ça affectait mes relations. Or, j'avais appris à le contrôler. Ça paraissait pas, mais c'était là pareil. Tu vas vivre des déceptions aussi, des tristesses, mais refusant de te les admettre, tu seras vulnérable à tomber dans les excès de petits plaisirs que tu te permets pour compenser. Tu deviens accro à la pornographie, tu deviens alcoolique, tu deviens ci, tu deviens ci. Pourquoi? Parce que, à la base, tu n'es pas heureux. Tu es triste, mais tu ne veux pas aller là. Tu veux pas. Tu fermes la boîte là-dessus. Mais à cause que ton âme souffre, qu'est-ce que tu fais? L'âme cherche des échappatoires. L'âme cherche à vivre, à trouver un plaisir dans la vie. Mais c'est un piège, hein? C'est un piège. Tu vivras l'anxiété, mais puisque tu refuses de te l'admettre, cette anxiété te rongera et pourra produire des problèmes de sommeil, des maladies physiques comme l'hypertension, par exemple. Qui, moi, anxieux? Non, un chrétien, ça n'a pas besoin d'être anxieux. Ne soyez pas anxieux en rien. Moi, j'avais beaucoup d'insomnie il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, peut-être quinzaine d'années. Puis ma femme a dit, c'est quoi qui te dérange? Je dis, il n'y a rien qui me dérange. Là, on va en vacances, dans le sud, dors comme un bébé. Elle dit, c'est drôle, hein? Tu dors bien, hein? Comment ça se fait? Chez nous, tu dors pas bien. Tu dois être anxieux. Non, je suis pas anxieux. Ouais. Je refusais d'admettre que j'étais anxieux. Les émotions refoulées vont te piéger. Tu vas les vivre pareil, même si tu ne veux pas les vivre. Et des émotions refoulées, ça crée des problèmes. Deuxièmement, tu ne seras pas en mesure d'accueillir ou d'accompagner les gens. Ça bloque les relations. Si pour moi, la tristesse, c'est pas admissible, là. Je peux pas vivre la tristesse en tant que chrétien, c'est pas bon, la tristesse, c'est pas bon. C'est pas la volonté de Dieu pour toi que tu sois triste. Bon, qu'est-ce qui va arriver quand tu es triste et tu viens me voir? Je vais-tu être capable de t'accueillir? Non. Pas du tout. Les gens vont se sentir pas écoutés, peut-être même méprisés, repoussés. Dans la relation, dans les relations, là, l'émotion est un facteur critique. C'est un facteur critique. La peur, l'incertitude, la résistance, l'espoir, le déni, toutes ces émotions, si elles ne sont pas reconnues et bien gérées, elles sabotent les décisions, elles sabotent les relations, elles détruisent la confiance. Elle bloque les relations dans ta famille, ton travail, ton église et surtout ta relation avec Dieu. Wow! Mais là, Brian, tu es en train de me dire que les émotions, c'est important dans ma relation avec Dieu? Oui. Oui. Ça a l'air assez radical, hein, ce que je dis là ce matin. C'est radical pour moi aussi, là. Je vous le dis, je vous l'avoue. C'est radical pour moi. Si je refoule, je réprime les émotions, si je considère que les émotions, c'est pas bon, on met ça au placard, on ferme la clé, tu ne seras pas en mesure de vraiment jouir d'une relation intime avec Dieu. Ah oui, tu vas mémoriser les passages de la Bible. Ah oui, tu vas témoigner. Ah oui, tu vas servir dans l'Église. Mais à un moment donné, tu vas t'essouffler. À un moment donné, tu vas trouver ça lourd. À un moment donné, tu vas tomber dans une sorte de marasme, d'apathie, ou peut-être même de ressentiment envers Dieu. Il y a beaucoup, écoutez ça là, il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens. Moi, quand j'ai entendu cette phrase-là, j'ai dit, hop là, ça me concerne. Je me rappelle où je l'ai entendu, mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne vivent pas une intimité avec Dieu. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas une relation intime avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'on est bloqué dans nos émotions. Fait que ça, c'est la première façon de regarder les émotions. La deuxième façon de regarder les émotions, c'est peut-être de classer les émotions dans les catégories de bonnes ou mauvaises. Ah là, ça ressemble à ça, là. Boy Brian, ça a de l'allure, ça. C'est biblique, je pense. Dans cette approche, on ne considère pas toutes les émotions sont mauvaises. Mais il y en a quelques-unes qui sont mauvaises, qu'il faut éviter. Un vrai chrétien, il ne peut pas se permettre ça. Puis il y en a d'autres qui sont bonnes. Puis un vrai chrétien a le droit de vivre la joie, la paix, l'espoir. Les mauvaises, la peur, la colère, la tristesse, non. OK. Est-ce que certaines émotions sont bonnes et d'autres mauvaises? Prenons des exemples dans les bonnes. La joie, c'est bon. C'est une bonne émotion, pas vrai? Oui! Ah bon. Mais si tu te réjouis de la mauvaise fortune de quelqu'un, est-ce une bonne émotion? Oh! Attends, tu m'as dit que c'était une bonne émotion. Ah ah! Proverbe 24, 17 nous dit « Ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il trébuche. » L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, nous dit 1 Corinthiens 13, 6. Dieu ne se réjouit pas de la mort du méchant, nous dit-il dans Ézéchiel 18, 23. Il désire plutôt que le méchant se détourne de ses mauvaises voies et qu'il vive. Oh, prenons la paix. Ben, la paix, ça, c'est bon. Là, ça, c'est sûr que c'est bon, là, Brian. OK? C'est bon. C'est une bonne émotion, pas vrai? Mais qu'en est-il si tu es en paix avec une situation qui, en fait, est mauvaise? J'ai souvent entendu des gens me dire, je suis en paix avec ma situation. En rapport avec une situation qu'il se permettait de vivre, qui était contraire à la volonté de Dieu. Est-ce que c'est une bonne paix? C'est une bonne émotion à ce moment-là? Pas du tout. Hein? Puis Dieu il dit dans les prophètes, il dit « Malheur aux prophètes qui disent paix, paix! » Alors qu'il n'y a pas de paix. Et dans les derniers jours, les gens diront « paix, paix! » Mais la paix et sécurité, et voilà. Et qu'est-ce qui arrive tout de suite après? La destruction soudaine qui dit, « Ouh, OK. » Alors, l'espoir, ben ça, c'est bon. C'est sûrement une bonne émotion, ça. C'est bon, mais ça dépend dans quoi tu places ton espoir. Cette année, si tu places ton espoir dans le Canadien, tu risques d'être déçu. Pas vrai? Non, mais c'est vrai. Si tu mets ton espoir à mauvaise place, est-ce que c'est une bonne émotion? OK, prenons les mauvaises maintenant. Là, je suis sûr que c'est des mauvaises émotions. La peur, ça, c'est mauvais. OK, il ne faut pas avoir peur, nous dit-on. Ah bon? OK, mais ce matin, les deux canards là, qui étaient le chemin, il y avait zéro peur. Je les aurais écrasés. J'ai fait le saut, mais j'ai dit zéro peur, là. Pourtant, ça serait normal qu'il ait peur puis qu'il s'envole, hein?
Mais toi, t'as eu peur.
Non, j'ai pas eu peur. mais si tu vois arriver une tornade qui fonce sur ta maison, je pense que la peur, ça peut être bon. Pas vrai? Ça va te pousser à agir. Ou si tu rencontres un ours grizzly sur ton sentier ou en forêt, c'est normal. C'est mieux d'avoir peur. OK. Un jeune enfant qui n'a pas peur de certaines choses, ou des petits-enfants, moi, il y en a là-dedans qui n'ont pas peur de la piscine. Et il faut les guetter comme des aigles. Hein? Parce qu'ils n'ont pas peur. C'est dangereux, un enfant qui n'a pas peur. Hein? OK. Bon. Fait que la peur, c'est-tu bon ou c'est mauvais? Oh, ça dépend, hein? OK. La tristesse ou la colère. La colère. Oui, Jésus dit que celui qui se met en colère contre son frère mérite le jugement dans Matthieu 5, 22. OK. Ça prouve que la colère, c'est mauvais. Mais dans Éphésiens 4, 26, on lit « Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère ne s'apaise avant le coucher du soleil. » Romains 1, 18 nous dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. C'est-à-dire contre les humains qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté, qui étouffent volontairement la vérité. Dieu est en colère. Dieu a droit d'être en colère parce qu'il est le seul juste et il est le Créateur. Et il a tous les droits. Dieu a le droit d'être en colère. Nous, on peut être en colère. La colère, c'est toujours une réponse à quoi déjà? L'injustice, c'est ça, l'injustice. Nous, on peut être en colère face à l'injustice, mais on n'a pas le droit de porter de condamnation personnelle sur une personne, dans ce sens-là, contre notre prochain, car nous sommes nous-mêmes pécheur, injuste. La tristesse, une mauvaise émotion. Moi, quand j'étais jeune, aussitôt que je pleurais, peu importe la raison, on me disait « pleure pas, ça va aller, pleure pas ». Qu'est-ce que j'ai compris? j'ai compris que la tristesse n'est pas bonne. C'est pas bon, ça. Jette ça aux poubelles. Fait que j'ai fait ça. Puis, j'étais pas capable de pleurer aux funérailles de personne quand j'étais plus jeune. Non. Oui, c'est ça. La tristesse, c'est comme paraître faible. Est-ce que la tristesse est une mauvaise émotion qu'il faut rejeter au plus vite? La tristesse est une réaction normale à quoi? À un sentiment de perte, c'est ça. Réel ou perçu, hein? C'est toujours réel ou perçu. Mais la tristesse, c'est toujours une réponse à un sentiment de perte. OK? Dans le deuil, il est important d'accueillir la tristesse et de la vivre. Quelqu'un a dit que la tristesse, c'est l'émotion qui guérit. Wow, j'ai trouvé ça bon. Si on tente de la réprimer chez soi ou chez les autres, ça cause des problèmes. Alors, si l'approche que les émotions, c'est tout mauvais, c'est dangereux, on fuit ça, on réprime ça, c'est pas ça la bonne approche? Si la bonne approche, c'est pas de classer les émotions entre bonnes et mauvaises, quelle est la bonne approche? Vous l'aurez deviné, c'est l'approche biblique. C'est la façon biblique. Première des choses, Dieu vit des émotions. Déjà dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu lui-même vit de la tristesse, du regret, de la colère, de la haine même. Dieu vit de la compassion pour son peuple en Égypte qui souffre. Dieu a des transports d'allégresse à propos de son peuple, nous dit Sophonie 3, 17. Dieu vit des émotions. Wow! Lorsqu'on arrive à la vie de Jésus, alors on voit un homme qui vit vraiment ses émotions. Il y a des transports d'allégresse dans Luc 10, 21, lorsqu'il constate que Dieu s'est révélé à des gens petits aux yeux de la société. Il tressaille d'allégresse même. Voyons, contrôle-toi, Jésus, là. Non. Il tressaille d'allégresse. Il pleure de rage devant le tombeau de son ami Lazare. On a vu ça quand Étienne nous a parlé de Lazare, puis je l'ai entendu aussi ailleurs, je l'ai lu. Le mot pleura, là, Jésus pleura, là, c'est pleurer, mais pleurer de rage. Tu sais, quand tu es choqué, là, tu es tellement choqué que tu pleures, là. Jésus vit ça. Il pleure de rage devant le tombeau de son ami Lazare. Il regarde la foule avec indignation, qui est une forme de colère, avant de guérir la main de l'homme paralytique dans la synagogue. Hein? Il était très profondément attristé par la dureté de leur cœur. Indignation. C'est comme ça n'a pas de bon sens, là. C'est ça qu'il vit. Il est ému de compassion devant la foule qui n'a pas de berger dans Matthieu 9, 36 et devant les aveugles, Matthieu 20, 34. Ému de compassion. Il expérimente la tristesse jusqu'à la mort dans le jardin de Gethsémané. C'est lui-même qui nous le dit. Je suis triste jusqu'à la mort. C'est pas qu'une petite tristesse, là. Oui, c'est ça. Et même l'anxiété, là. Maintenant, Dieu vit des émotions, Jésus aussi. Dieu nous a créés à son image, pas vrai? Si Dieu a des émotions, nous aussi. Jésus, c'est Dieu incarné. Jésus vit des émotions. On peut conclure que les émotions viennent de Dieu. Il nous a créés avec des émotions. Dieu expérimente la joie, nous aussi. Dieu expérimente la tristesse, nous aussi. Dieu est en paix, nous aussi, nous pouvons expérimenter la paix. Dieu nous a créés à son image. Et donc, les émotions, c'est une grâce. Une grâce compliquée. Une grâce compliquée. Mais une grâce. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un cadeau. C'est un cadeau que Dieu nous a créé avec des émotions. Vous allez me dire, ouais, les émotions, c'est pas un cadeau. Mais c'est parce que on les gère mal. Ou ils sont inappropriés. Ou on se laisse mener par nos émotions. Il faut apprendre à les identifier, à les gérer, à les vivre avec Dieu. Et là, les émotions deviennent un atout. Les émotions deviennent quelque chose de merveilleux. Oui, ma sœur? Ben oui, tu peux. Oui, oui. Oui, absolument. Absolument. C'est une grâce, c'est une bonne chose que tu aies des émotions. C'est un bien qui nous vient de Dieu. Ben, si c'est un bien, si c'est une grâce, si c'est une bonne chose, mais comment classer ça? On a vu que ces deux façons-là, ça ne marche pas. J'ai entendu un podcast il y a quelques mois et j'ai fait « Wow, c'est extraordinaire ». Une bonne partie de ce que je viens de vous dire ce matin, ça vient de ce podcast-là. C'est un dénommé Alasdair Groves qui est directeur du Christian Counseling and Educational Foundation. Il nous aide en nous disant qu'au lieu de classer les émotions en bonnes ou mauvaises, on peut les considérer comme étant agréables ou désagréables. OK? C'est quoi ça? C'est quoi que ça veut dire? Agréable, c'est quand tout ton monde tourne comme il devrait. Ça marche comme tu l'entends. Tout est bien, bon, juste, correct. Alors là, ça va produire des émotions agréables. OK? La joie, la paix, l'amour, la tranquillité. Toutes ces choses-là, là, ce sont des émotions qui viennent lorsque ton monde tel que tu l'as perçois ou la situation telle que tu la perçois, ben ça correspond à ton idéal. OK? Des émotions désagréables, c'est le contraire. Ton monde ne tourne pas comme il devrait. Il arrive des malheurs, de l'injustice, des pertes, des séparations. Alors là, ça peut traduire la tristesse, la colère, la peur, l'anxiété, tout ça. Tout ça, toutes ces émotions-là nous indiquent que ça ne tourne pas bien autour de nous. OK? Alors, les émotions, à ce moment-là, sont comme un indicateur pour te montrer qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Qu'est-ce que tu vis? Ça nous indique ce qui se passe comme un tableau de bord d'un avion. Levez la main. Qui sont ceux qui aimeraient monter à bord d'un avion dont le pilote ne se soucie aucunement des instruments de bord? Pense que tu ne mettras pas le pied dans cet avion-là. Hein? Ou à chaque fois qu'un instrument s'allume sur son tableau de bord et où il se met à crier, il prend un tournevis puis il se dépêche de briser l'instrument. Parce que c'est mauvais, ça. Ça crie, ça flash, c'est pas bon. On va détruire ça, là. Tu mettrais le pied dans l'avion? Ah oui, mais tu vas me dire, les émotions, ça peut être faussé. Oui. Les instruments de tableau de bord peuvent être faussés aussi. Mais j'aime mieux embarquer dans un avion qui en a qu'un avion qui n'a pas. Pas vrai? Oui, nos perceptions peuvent être faussées, on y reviendra. Mais une des raisons pourquoi les émotions, c'est une grâce, c'est que ça t'indique qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Des fois, on est bouleversé et on sait même pas ce qui se passe. OK? Ça prend du temps. Et là, on cherche à refouler, on cherche à fuir, on ne veut pas faire face. Et je suis bouleversé. Pourquoi? C'est quoi qui se passe? Ah, ben je suis en colère. Ah, OK. Pourquoi je suis en colère, hein? Depuis quand je suis en colère? Voyons. Ah, c'est ce matin quand ma femme a dit ça. Je me suis senti pas respecté. Ça m'a mis en colère. Ah, OK. Ben là, le tableau, la petite lumière sur le tableau de bord, là, elle vient de flasher pour te dire tu es en colère parce que tu as vécu une situation que tu perçois comme étant injuste. Qu'elle soit injuste pour de vrai ou non, tu la perçois de même. Et qu'est-ce que ça peut t'amener à faire? Bien, c'est de l'information, c'est de la bonne information. Si l'avion est en train de piquer du nez, là, puis il n'y a pas de tableau de bord qui flash, il n'y a pas de lumière qui flash, là, pas bon, là. C'est bon d'avoir l'information, la petite lumière qui flash, et dit, hey, pilote, réveille-toi, tire sur le bâton, là. Hein? Fait que les émotions nous indiquent qu'est-ce qui se passe dans notre cœur, et les émotions nous poussent à l'action. Wow! Hey, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, wow! Hey, là, vraiment, là, je comprends à quoi ça sert, les émotions. C'est une grâce. La peur des canards, ils ne l'ont pas eue. Mais s'ils avaient eu peur, là, ça les aurait poussés à l'action. Sortez du chemin. Tu vois ton enfant de 2 ans courir après son ballon dans la rue alors qu'un véhicule arrive à toute allure. Quelle émotion montera dans ton cœur de parent qui voit cette scène-là? La peur! La panique! Ah non, la peur, c'est pas bon. Il ne faut pas que je réagisse à ça. Dieu dit que c'est pas bon. C'est mauvais. Un chrétien ne doit pas vivre la peur. Voyons donc. La peur dans cette situation-là est tout à fait normale et bonne. Avant que 2 neurones dans ton cerveau aient le temps de se parler ensemble, tu es déjà en train de courir après l'enfant. Hein? C'est un puissant motivateur, les émotions. On pourrait prendre d'autres exemples. La honte, c'est mauvais la honte. Ah, mais pas toujours. Dieu éprouve-t-il la honte? Non. Il y a certaines émotions que Dieu n'éprouve pas parce qu'il n'a pas besoin. Mais il nous les a données parce que nous, on en a besoin. OK? La honte, ça peut être mauvais, ça peut être très mauvais. C'est vrai. Mais, par contre, la honte est une émotion que Dieu a créée pour nous aider, nous. Paul dit dans 2 Thessaloniciens 3, 14, 15, « Si quelqu'un ne se conforme pas aux instructions de cette lettre, signalez-le. Signalez-le à tous. Rompez toute relation avec lui pour qu'il éprouve de la honte. » Oh! C'est Dieu qui dit ça, là. C'est pas moi. « Toutefois, ne le traitez pas en ennemi. Reprenez-le comme un frère. » La honte, ça sert comme motivation à quoi? À la repentance. La honte, c'est pas une émotion agréable, on s'entend, mais c'est bon si ça t'amène à la repentance. La tristesse aussi, hein, Paul dit aux Corinthiens, il dit, vous avez éprouvé une grande tristesse, mais je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que la tristesse que vous avez éprouvée, là, ça vous a conduit à quoi? À la repentance. Tu vois? Oui, Lourdes? OK. 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 Ouais. 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 La honte dans cette situation-là est pas bonne. Elle est mauvaise parce que tu n'as pas honte pour les bonnes raisons. Mais la honte peut être une bonne chose pour nous amener à nous repentir. Paul dit aux Romains, « Or, quel fruit portiez-vous alors, tes actes dont le seul souvenir vous fait rougir de honte aujourd'hui? » Il dit, « Face à un péché qu'on a commis, ça nous pousse à éprouver un profond dédain, à changer de comportement, quand c'est la bonne honte, la honte face au péché. » On a vu la dernière fois hein, comment est-ce que la honte, Jésus l'a portée sur la croix, la honte par rapport à nos péchés. Il a tout souffert, ça. Il a pris pour que maintenant, nous, lorsqu'on se tourne vers Dieu, qu'on n'ait pas honte. C'est parce que la honte peut nous empêcher d'aller vers Dieu. La mauvaise honte. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. La joie, par exemple, la joie, ça sert à quoi, la joie? Ça nous motive à louer Dieu. À louer Dieu. Tu es dans la joie, Paul dit. Quelqu'un est dans la joie, qu'il loue Dieu. Donc, la joie, c'est un puissant motivateur pour louer Dieu. La colère, on dit que c'est pas bon, la colère, OK? Mais, il y a certaines circonstances que ça peut être bon. S'il y a une injustice, et tu gardes le contrôle, mais ça te motive à aller faire quelque chose. Mais c'est bon. La colère t'a motivé à intervenir. Quand je vois mon gars frapper sa petite sœur, ça me met en colère. Et ça me motive à intervenir. Mais il y a des bonnes façons et des mauvaises façons d'intervenir, c'est sûr. Mais tu vois que la colère, elle sert à quelque chose. Oui? Ouais. Exact. Fait qu'on arrive là-dessus, mon frère bien-aimé. C'est un bon point. Donc, on était rendu à dire que, pour résumer, voici, les émotions nous indiquent ce qui se passe dans notre cœur. Vous êtes d'accord avec ça? Les émotions nous poussent aussi à l'action. Ça sert à ça. Mais les émotions sont tributaires de nos perceptions qui peuvent être faussées. Qui, je dirais même qui sont souvent faussées. Nos perceptions, Nos perceptions de ce qui se passe dans une situation, hein, sont influencées par nos désirs, par nos blessures, par notre façon de voir la vie, hein, par notre philosophie, par nos idoles. Alors, comment mettre de l'ordre dans tout ça? Il y a la perception de la situation qui peut être faussée. Et aussi, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec, comme tu dis bien dire, là, Carl? Qu'est-ce que je fais avec? Ça aussi, c'est souvent mal géré. Pas vrai? Qu'est-ce qu'un cœur qui bat pour Dieu va faire de ses émotions? Un cœur qui bat pour Dieu va les accueillir et va les vivre avec son berger. C'est ce qu'on voit ici dans le psaume 142. Pas vrai? Les émotions doivent être vécues à la lumière de la vérité de qui est Dieu, à la lumière de qui est Jésus, de ce qu'il a fait à la croix, de ce qu'il a fait de toi à la croix, lorsque tu t'es confié à lui, de qui tu es maintenant. Les émotions, on doit les apporter à la lumière. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il t'a réconcilié, toi et moi, à ton Père. Il a rétabli cette relation. Tu peux maintenant aller à lui avec tout ce que tu vis. N'est-ce pas merveilleux? C'est merveilleux. C'est exactement ce que David fait ici, dans le psaume 42. Il vit plein d'émotions, on l'a vu, hein? Si on retourne là, est-ce que vous vous rappelez? Regardez ce qu'il vit. Injustice, abandon, solitude, impuissance, il est découragé, triste, abattu, pas de force, rejeté, exposé, négligé, persécuté. Il amène ça à Dieu. En amenant ça à Dieu, il arrive deux choses. La première chose, c'est qu'il gagne une autre perspective sur ce qu'il vit. On a dit que nos perspectives peuvent être faussées. Si tu restes avec tes perspectives, là, c'est à peu près certain que ça va être faussé à quelque part. Si tu les amènes à Dieu, tu lèves tes yeux vers Dieu, il se passe quelque chose. La perspective de qui tu es, de qui est Dieu, de qu'est-ce qui se passe dans ta vie, ça change. Ça change. Tu viens qu'avoir une nouvelle perspective sur ta situation. Je vis une injustice au travail. Mon collègue, il ne m'a pas respecté. J'aime pas ça. Puis là, je pense, Colin, tu sais ce que je vais faire avec ça? Là, je viens en présence de Dieu. Seigneur, je me sens une injustice. Je suis en colère. Puis là, je comprends, Dieu est grand, il est au-dessus de tout ça. Dieu va s'occuper de toutes les injustices. Dieu va s'occuper de moi. Dieu me voit. Dieu m'entend. Dieu me comprend. Et bien souvent, je réalise que ma perception était faussée. Ou si elle était vraie, ou en tout cas partiellement vraie, là maintenant, la deuxième chose va arriver, c'est que je vais changer ce que je fais avec cette émotion-là. Donc, c'est souvent là que ça échappe. C'est dans la perception des choses et dans la réaction. C'est pour ça que les émotions, souvent, on dit, ben non, c'est de la marde, excusez l'expression, là, mais c'est de la marde. On jette ça aux poubelles, là, oublie ça. Non, c'est parce que souvent, tes perceptions sont mauvaises ou tes réactions sont mauvaises. Et la solution à ça, mes amis, c'est de faire ce que Dieu nous indique ici, ce que David fait. Il se tourne vers Dieu, il expose son cœur à Dieu. Si tu réprimes tes émotions, tu ne seras pas capable de faire ça. et tu ne seras pas en mesure d'avoir la perspective de Dieu sur cette situation, d'avoir une direction pour savoir comment gérer maintenant cette émotion-là. Qu'est-ce que je fais avec, là? Je fais quoi, là? Et tu ne seras pas en mesure d'expérimenter la consolation de Dieu non plus. Tu vois-tu pourquoi je dis, et que ce n'est pas moi qui le dis, il y a beaucoup de chrétiens qui ne jouissent pas d'une relation intime avec Dieu parce qu'ils sont barrés. Émotionnellement, ce qu'on appelle verrouillé. Le cœur est verrouillé. Je ne me permets pas de vivre les émotions. Souvent parce que c'est en rapport avec les émotions désagréables. Mais quand tu fermes ton cœur à ces émotions-là, tu fermes aussi ton cœur aux émotions agréables. Tu ne peux pas vivre autant non plus. Et tu ne pourras pas vivre cette intimité avec Dieu. David, il vit pleinement ses émotions. Il ne cherche pas à les réprimer, à tel point que même, comme Martial a dit tantôt, des fois on pense qu'il délire. On pense qu'il exagère. Mais non! David, il accueille ses émotions, mais il ne se laisse pas contrôler par ses émotions. Et ça, c'est vrai. Souvent, ça a été le cas dans le passé. Il y a les émotions, c'est mauvais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se laissent contrôler par ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est mauvais, ça. C'est pas mieux, là. C'est pas mieux de te laisser contrôler par tes émotions que toutes les réprimer, là. C'est pas mieux, là. Tu es supposé être contrôlé par qui? Par l'Esprit de Dieu. Alors, David, que fait-il? Il expose son cœur à Dieu. Il se tourne avec tout son cœur à Dieu. Il crie à Dieu. La Bible dit, « Répands ton cœur devant l'Éternel. » Et en se tournant vers Dieu, il gagne une nouvelle perspective sur cette situation. Il gagne une nouvelle façon de réagir à sa situation. Et il trouve refuge, consolation. Regardez comment le psaume termine. Et c'est souvent le cas avec les psaumes de David. Hein? Vous avez remarqué? Souvent. Le psaume commence, ça va mal. Ça va vraiment mal. Puis le psaume termine, là. Il est dans la joie, il est dans la paix, il est dans la louange. Qu'est-ce qu'il dit ici à la fin? Il dit au verset 7, verset 8, « Fais-moi sortir de ma prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » Il y a un espoir, là. Il y a une nouvelle espérance. Il y a la vie. Il y a la vie qui revient. Et Dieu a répondu aussi à sa requête. Hein? Les justes viendront m'entourer. Dieu l'a entouré après. De gens. Ben, ils n'étaient pas tous justes, là, mais... Je crie. Amen. David expérimente la consolation de Dieu. Il expérimente l'accueil de Dieu. Il expérimente la vision de Dieu sur lui-même, sur sa situation, et il termine dans l'espérance. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup de choses, hein? Je suis d'accord. Puis c'est un monde que, comme j'ai dit, on n'a pas abordé souvent, mais c'est tellement important.
Mais quand ça t'arrive, un moment que tu es en colère, demandes-tu à Dieu, à Jésus ou au Saint-Esprit?
Tu peux demander à Dieu le Père, parce que Jésus s'adresse surtout à Dieu le Père, mais ce n'est pas un péché de parler à Jésus, ce n'est pas un péché de parler à l'Esprit, parce que c'est tous Dieu. Mais le Seigneur Jésus nous a montré un pattern que lui, il était en relation avec son Père. C'est la première relation qu'on a. L'Esprit est là pour nous aider dans cette relation-là. Il nous rappelle ce que Dieu a dit, ce que Jésus a dit. Il nous aide à exprimer notre cœur à Dieu, le Père. Lui est là pour ça. Jésus est au ciel pour intercéder pour nous. Mais on voit dans la parole des prières faites à Jésus. Mais la première relation, c'est la relation de père et enfant. Donc, les émotions, pour conclure, sont une grâce. Amen? Amen? Amen. Ouais. Oh, même si on ne sent pas toujours comme ça, là, c'est vrai. Les émotions nous indiquent ce qui se passe dans notre cœur. C'est peut-être nouveau. C'est peut-être nouveau pour toi, là. Mais c'est ça. Amen. Amen. On n'aime pas toujours. On veut pas toujours voir, souvent même. On veut pas. On veut pas aller là. On refuse. Mais je vous dis, c'est bien mieux quand on va voir. Et des fois, on a besoin d'aide. Un frère, une sœur, conjoint, conjointe. Oui, Lourdes? C'est vrai. Oui. Ouais. Exactement. Exactement. C'est ça. Exactement. 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 Merci, ma sœur, c'est un excellent point. Moi, au début de notre mariage, j'étais patient avec ma femme. Patient, patient, patient. Vous riez? Non, mais c'est vrai. Mais, des fois, c'est justement, ça m'a fait penser à ça. Si elle faisait quelque chose, des fois, j'explosais pour une petite niaiserie. Pourquoi? Parce que j'étais patient, mais je refoulais. Je refoulais des choses qu'elle faisait que j'aimais pas, que j'aurais pu dire. Ben, gars, chérie, quand tu mets le savon de ce bord-là, de l'évier, j'aime pas ça. C'est niaiseux, hein? Mais c'est souvent à propos des niaiseries qu'on appelle en bon québécois des niaiseries, des stupidités, des banalités. OK? Ensuite, les émotions sont un puissant motivateur pour nous pousser à l'action. Attention, parce que ça peut être une mauvaise action. Malheureusement, j'ai échappé la balle plusieurs fois quand j'étais papa avec mes enfants. Je me suis mis en colère, mais je n'ai pas fait de la bonne façon. J'ai blessé mes enfants. Mais l'émotion pousse à l'action. Et la joie, ça devrait nous pousser à adorer, à louer Dieu. Et finalement, les émotions sont tributaires de nos perceptions qui peuvent être faussées. Mais finalement, un cœur qui bat pour Dieu accueille ses émotions, les vit avec le bon berger. Amen.